J'entends des voix avec Luc Fortin et Christiane Campagna.
Christiane Campagna.
Luc Fortin.
Jean-Sébastien La Liberté.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien. Comment allez-vous tous?
Ça va très bien. On parle littérature aujourd'hui avec Paul Le Gros.
Il approche.
Il n'a pas commencé encore?
Il commence mercredi.
OK.
Et c'est une grosse semaine pour Vue et Voix, puisqu'on est un partenaire cette année. Justement, je vais présenter les personnes
Allons-y.
En studio. Et comme ça, si on leur demande d'intervenir, on saura avec qui on est en train de jaser. Alors, tout d'abord, il y a Clotilde Seil, que les auditeurs de Canal M connaîtront sans doute, qui anime l'émission Des livres, qui anime, réalise, recherche. L'émission... l'émission Des livres plein les oreilles, un magazine qui est hebdomadaire, qui est présenté les jeudis sur Canal M et qui est consacré 100% aux livres audio. On reviendra un petit peu sur l'historique de l'émission au fil des années. Ainsi que Mme Jeanne Dompierre, qui est rédactrice en chef. J'ai vraiment fait un lapsus sur ma feuille de route. J'ai écrit à la vitrine culturelle.
Ah, vous n'êtes pas la seule à le faire.
Ah oui?
Je dirais que c'est une bonne façon de clairer certains communiqués. Quand ils sont adressés à la vitrine culturelle, je sais que ce n'est pas pour moi.
C'est bien sûr la Fabrique culturelle, qui est une branche de Télé-Québec. C'est bien
qui est,
ça.
Qui est une, ouais, pas une branche, mais qui appartient à Télé-Québec.
Qui appartient à Télé-Québec.
Une plateforme numérique de Télé-Québec.
Qui produit plusieurs balados, dont un balado littéraire, La vie secrète des libraires, qui avait une saison l'an passé.
Que j'ai découvert ce week-end seulement.
Oui, moi aussi, je l'ai découvert grâce à une bonne amie à moi, Myriam Daguzan-Bernier, qui a travaillé à la Fabrique culturelle, une mordue de littérature aussi, et il va y avoir une nouvelle saison, on va en reparler
tout
à l'heure.
Ah oui? Parce que le dernier épisode date de février.
En fait, la première saison de La vie secrète des libraires a été diffusée entre décembre et mars de l'année dernière. Et là, on lance la deuxième saison probablement à la mi-avril cette année, donc en 2020.
OK. On y reviendra.
Alors, Clotilde,
Oui, bonjour.
Ouf, oui. l'émission des livres plein les oreilles, elle a eu plusieurs noms d'ailleurs, deux au moins.
Oui.
Elle existe depuis plusieurs années.
Et plusieurs vocations aussi.
Oui, plusieurs vocations.
Elle a évolué un peu quand même.
Sa vocation a changé avec la vocation de l'organisme Vue et Voix. On peut dire ça.
On peut dire ça comme ça, quoique, mais on peut dire ça comme ça, puisque effectivement, avant que Vue et Voix devienne un partenaire, devienne un porte-étendard aussi de ce qu'est le livre audio, mais on ne parlait toujours du livre audio que du livre audio accessible pour les personnes en difficulté visuelle. Okay? Donc voilà, c'était ça au départ. Donc effectivement, l'émission à livre découvert qui avait été créée par Carmen Lepage à l'époque et Michel Gélina ne traitait, entre guillemets, que de livres accessibles.
J'avais
oublié ça. Mais oui, c'est sûr.
Ouais,
c'était avant, jusqu'en 2014 qu'ils ont été là à peu près. Et puis, au fur et à mesure, je continue quand même à en parler parce que j'ai des chroniques, par exemple, avec Mme Bobier, Faline Bobier, qui est de Caeb. Donc, elle nous fait part des nouveautés qui sortent pour les personnes accessibles. J'aimerais avoir le même partenariat avec le SQLA. Je n'y parviens pas pour toutes sortes de raisons.
Le service SQLA étant le service
québécois du livre adapté, donc via BANQ. Donc on continue d'en parler, mais il est vrai que maintenant, compte tenu du fait que Vue et Voix s'est spécialisé dans la production de livres sonores de tout genre d'ailleurs, moi du coup je suis aussi obligatoirement cette veine-là, mais je ne parle pas que des livres produits par Vue et Voix, je parle des livres produits en français.
Un
peu
partout,
voilà, dans la francophonie, c'est ça. Et donc, je suis en contact avec des gens de chez Audiolib que j'aime beaucoup en France, Gallimard, ils ont une collection Écoutez-Lire qui est vraiment superbe. Et puis, mais ce qui ne m'empêche pas de parler de ce qui sort, soit chez Valentin Huy, soit au SQLA, etc. Quoi.
Et au fond, non seulement ça permet de faire découvrir quelque chose qui pour le grand public est peut-être quelque chose de nouveau, mm-hmm. le livre audio, mais on poursuit en même temps la vocation de Canal M d'inclusion, puisque le livre audio, oui. en général, probablement que les personnes non-voyantes ne se limitent plus maintenant aux productions disponibles au Service québécois du livre adapté.
C'est du moins ce que j'espère. C'est du moins ce que j'espère, parce que c'est sûr que qui dit livre accessible dit gratuité.
C'est ça, oui.
Qui dit, qui dit livre commercial dit livre qui s'achète.
Mais et qui dit handicap visuel dit 33% des gens ont un emploi.
Oui.
Donc, les revenus, disons, plus serrés.
Oh oui, absolument. Ouais. Donc ça, on est bien conscient. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à Vues et Voix, on travaille fort en ce moment avec le Service québécois du livre adapté et avec BANQ pour que tous les livres, et je dis bien tous les livres que nous produisons, se retrouvent également sur les tablettes, accessibles gratuitement aux personnes qui présentent une déficience visuelle.
Donc la version commerciale, avec tout le fla-fla qu'une version commerciale peut offrir, risque d'être sur les tablettes pour moi aussi en Daisy.
Qu'est-ce que vous voulez dire par fla-fla?
Ben, des fois, il y a de la petite musique.
Il n'y en a pas encore tant que ça. Okay. Je veux dire, bon, si on parle d'un livre comme les Belles-Sœurs, là, qui sort prochainement, là, il y a beaucoup de fla-fla parce que c'est un livre qui le nécessitait et qui le permettait. Mais cela dit, sinon, ça reste très, une voix. Et puis, il n'y a pas grande différence entre un livre accessible pour les non-voyants ou malvoyants ou un livre accessible à tous.
C'est qu'en fait, on dirait que c'est maintenant un peu sur un continuum depuis justement qu'il y a un intérêt plus grand public. On n'est plus seulement dans la notion d'accessibilité. Il y a certains projets littéraires qui sont des projets littéraires audio. Donc, plus que du fla-fla, pour moi, ça fait parfois partie de l'œuvre aussi, là, cette notion de musique et de bruitage. Ouais.
Oui, parce que... Pardon.
Non, vas-y, je disais qu'il y a même parfois la frontière entre le balado de fiction et le livre audio devient flou dans certains cas.
Parce que c'est deux types de projets littéraires.
Oui, absolument. Absolument. Moi, si je reviens encore là aux Belles-Sœurs, c'est quelque chose qui pourrait très bien être séparé en partie de 27 à 28 minutes. Et puis, ça va donner lieu à des beaux balados. Mais évidemment, là, comme ça dure 3 heures, un balado de 3 heures, ce serait un petit peu difficile.
On va y revenir dans un moment. Oui. Mais avant, je voulais revenir à des livres pleins les oreilles. Si tu pouvais nous parler un petit peu de la formule pour ceux qui ne l'auraient jamais écouté.
Alors, la formule est simple. On donne la parole, bien sûr. On se base sur des entrevues, soit avec des auteurs qui ont été lus, soit avec des lecteurs qui lisent ces auteurs-là, ou parfois les deux, parce que parfois l'auteur...
Comme la semaine dernière.
...est le lecteur. Voilà, exactement. Ouais. Je sais que là, prochainement, entre autres, ce sera plutôt un lecteur avec Patrice Robitaille qui a lu Ghetto X, qui est le dernier Victor Lessard, dans lequel d'ailleurs il joue et qui est disponible en ce moment sur le Club Illico. Là. Et bon, donc Patrice Robitaille a accepté de venir pour nous en parler. Alors, entrevue assez brève, je pense, puis surtout des extraits. Moi, je ne peux pas parler d'un livre audio si j'en entends pas un petit bout. Alors, c'est pour moi essentiel qu'on écoute des extraits de tous les livres dont il est question. Ça me complique la tâche, mais plus sympa pour l'auditeur.
Sûrement. J'écoutais la semaine dernière, j'avoue, c'est un petit moment que j'avais été branché sur des livres plein les oreilles. Mm-hmm. Pour l'exercice aujourd'hui, je me suis dit, tiens, au cas où ça ait changé, et je dirais... Et je vais prendre la formule qu'on m'a... C'est de la radio comme on n'en fait plus. Uh-huh. À savoir, bon, premièrement, les extraits enrobés avec... que ce soit un petit xylophone ou que ce soit...
Oui.
Et tu prends ton temps.
Oui.
Tu connais le contenu dont tu parles. Évidemment, le lecteur et l'auteur... Donc, on discute entre personnes... intéressé par le sujet et peut-être même... Parce que lorsqu'on lit, on vit quelque chose.
Oui, absolument.
Alors, c'est une émission où l'on respire le vécu du bouquin. Ça, j'aime beaucoup.
J'aime ça beaucoup, oui.
Et la deuxième demi-heure, moi, me plaît particulièrement. Tu veux peut-être nous en parler un petit peu?
Ben, la deuxième demi-heure, elle peut... Oui, c'est ça. Ouais. Elle va varier. C'est-à-dire que j'ai quand même quelques personnes qui viennent, entre guillemets, nous offrir des chroniques. Donc, parfois, justement, ça peut être, je le disais, Faline Bobier de CAEB. Ça peut être Claudia La Rochelle. Et là, c'est pareil. Lorsque Claudia vient, une fois par mois... Tout à fait amicalement, je tiens à le préciser, Claudia ne nous parle que de livres qu'on peut retrouver en audio, d'une façon ou d'une autre.
Ce sont des suggestions.
Oui, ce sont des suggestions. Parfois, elles me demandent, est-ce que ça, ça existe, etc. Alors, évidemment, on communique beaucoup. Et puis, alors, j'aime bien ça. Et puis, il y a aussi un aspect nouvel, les nouvelles dans le monde de l'audio. Comme par exemple, je ne sais pas, moi, à un moment donné, il y avait... Je ne sais plus, est-ce que c'était un phare ou en tout cas un lieu en France où les gens qui venaient visiter pouvaient entendre en même temps soit des podcasts, des balados ou des livres audio. Bon, bah, et puis moi, je me disais, ah, quelle bonne idée, on pourrait faire ça ailleurs. Alors, ça peut être ça ou des extraits de nouveautés. Donc là, je passe très peu de temps à parler du livre en question, mais j'en diffuse 1 minute 30 ou 2 minutes pour qu'on se rende compte de la voix du lecteur. La façon dont ça a été enregistré. Ouais. Et maintenant, aujourd'hui, la qualité s'est nettement améliorée. Hein. Même des grosses boîtes comme Gallimard, Audiolib, Audible, quand on réécoute des enregistrements d'il y a même seulement 4 ou 5 ans, on s'aperçoit qu'on s'est amélioré beaucoup.
Justement, Audiolib faisait connaître son prix la semaine dernière. Ben, en tout cas, oui. Toi, tu parlais oui. aux gens d'Audiolib la semaine dernière pour le prix annuel.
Oui. Ça, c'est une autre chroniqueuse française à ce moment-là qui a accepté et qui est la grande patronne de chez Audiolib.
Donc, c'est une autre façon pour nous d'avoir des suggestions, mais tout en passant de l'actualité.
Oui,
littéraire.
C'est ça, exactement. Exactement comme là, pour l'instant, au moment où on se parle, le prix Goncourt n'a pas encore été enregistré, mais dès qu'il le sera, la semaine où ça va sortir, moi, je vais en parler avec un extrait. Ouais. Alors, que ce soit Goncourt, Renaudot, et idem pour les prix québécois, prix des libraires, parce qu'on est très associés avec eux ici, chez Vues et Voix, pour enregistrer les bouquins. On l'a déjà fait avec le livre d'Alexis Morin. Là, le titre m'échappe, pardon, je pense que j'en ai un petit peu trop dans la tête, mais... Et là, je vois ma camarade à côté de moi qui cherche.
Mais, j'en parlais hier avec un ami, en plus.
Alors,
ouvrir son cœur.
Oui, c'est ça, ouvrir son cœur. Merci beaucoup. Et, oui, parce qu'on pense... C'est important parce que les personnes non-voyantes se plaignaient, à juste titre, lorsqu'on ne faisait, entre guillemets, que du livre accessible. Le livre était accessible 6 mois ou 8 mois après la sortie du bouquin papier. Et quelque part, surtout si c'était un livre d'actualité, ben, c'était passé date. Ils n'avaient plus envie qu'on en parle. Ils avaient envie qu'on en parle en même temps que les autres. Mmh. Alors là, il y a encore un tout petit délai, mais beaucoup moins important. Là, le prix Goncourt, à mon avis, dans une semaine, il est en audio.
Ah oui.
Même qu'ils auraient pu s'y prendre un peu plus tôt puis l'enregistrer avant
même.
Ben
oui, franchement.
Non, mais c'est vrai que... Non, mais soif d'Amélie Nothomb. Moi, j'en ai parlé bien avant qu'on dise que le prix Goncourt allait être remis à M. Dubois. Amélie Nothomb est arrivée en deuxième et j'avais déjà parlé du livre. Donc, ils auraient pu, à la limite, enregistrer déjà en audio tous les bouquins qui étaient en nomination.
Ouais.
De toute façon, ça n'aurait pas été...
Il va y avoir une demande pour les autres aussi.
Oui.
Je voulais préciser pour nos auditeurs, surtout amateurs de balado, on parle... depuis tout à l'heure avec Clotilde, d'une émission qui est en effet diffusée en direct le jeudi.
C'est une émission.
Oui, mais qui est l'émission de Canal M la plus téléchargée sur iTunes. Donc, c'est un balado aussi, comme la plupart de nos émissions, sauf celles où des raisons de droit d'auteur là, nous empêchent de les mettre disponibles en balado.
Oui. Et moi, j'en ai pas de ces problèmes-là parce que ce sont les extraits que j'utilise, entre autres pour les livres commerciaux, sont ceux qui sont de toute façon disponibles sur les sites. C'est-à-dire que, et qui sont même téléchargeables. Ils disent carrément pour les télécharger. Donc, moi, j'ai pas de problème à ce niveau-là, mais évidemment, je pourrais pas en diffuser plus qu'une minute.
Parle-nous un petit peu du livre Belle-Sœur qui va être lancé jeudi au Salon du Livre.
Ça, là, ça fait 5 mois qu'on travaille là-dessus. Un petit rappel, la pièce Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, on a fêté les 50 ou 60, je suis en train, bien peu importe, un anniversaire. Et du coup, Mario Girard, qui est chroniqueur à la presse, on lui a confié, la presse, les éditions de la presse lui ont confié le soin d'écrire un livre un petit peu sur la genèse, sur l'historique. Qu'est-ce qui se passait en 68 lorsque cette pièce-là est née? Quelle était la place des femmes? Parce qu'on sait que cette pièce de théâtre-là fait place à 15 personnages uniquement féminins. Ouais. Bon, etc. Quel a été l'accueil? Et l'accueil a été épouvantable parce que la langue, entendre des femmes dire maudit cul sur scène, c'était bon. Alors donc, il a fait un travail de recherche, Mario, fantastique, et il est allé chercher les témoignages de comédiennes qui avaient joué dans la pièce, de metteurs en scène qui se disent tous des enfants et des petits-enfants de Michel Tremblay et de Brassard. Et quand on m'a, moi, confié le rôle de réaliser ça et que j'ai vu tous les témoignages, toutes les citations, toutes les, je me suis dit, mais il faut faire la même chose en audio. Alors, je me suis dit, bon, ça marchera ou ça ne marchera pas. Et j'ai donc contacté tous ces gens-là et ils sont presque tous venus. Mmh. Donc, c'est un livre où on retrouve 27 voix différentes, à commencer, bien sûr, de celle de Mario Girard, qui est narrateur, Michel Tremblay, qui est venu répondre à mes questions et qui a accepté de lire quelques bribes du texte, parfois du sien ou parfois de celui écrit par Mario Girard. Et puis, toutes les comédiennes, les Marie-Thérèse Fortin, Maude Guérin, Guylaine Tremblay, Michel Rossignol est venue, elle est quasiment aveugle, elle s'est déplacée, Robert Lepage. Alors, ça donne un document sonore vivant, mêlé à ça des extraits de la musique de Daniel Bélanger, du théâtre musical, ouais, Belle Sœur, ouais. Parce que je trouvais que ça prenait ça. Vous savez, vous parliez tantôt des petits xylophones, mais c'est pas par hasard, souvent, si je fais ça. C'est pour différencier les voix. C'est un vieux truc de radio, parce que si, par exemple, moi qui ai une voix grave, il arrive une lectrice avec une voix grave, on va pas différencier l'animatrice de la lectrice. Donc, un petit xylo ou un petit cloche, ça permet de... Voilà. Et le livre, j'en suis très fière, ça dure 2h47 et c'est donc lancé là, le 21.
On mais parle de livre audio, mais ça ressemble presque à du radiothéâtre.
C'est
en
ça.
Fait.
Oui. Les gens qui vont acheter le livre et qui vont écouter le document, c'est pas du verbatim.
Non, pas du tout.
Même novateur pour Vues et Voix.
C'est plus parce que novateur, mais c'est novateur pour tout le monde. C'est le premier livre audio qui est produit comme ça. Vraiment, c'est la première fois qu'on fait ça, mais le livre s'y prêtait et les acteurs, les comédiennes, les metteurs en scène ont accepté de jouer le jeu. Ouais. Alors, bingo, quoi. Bingo, c'est le cas de le dire.
Effectivement.
Alors, merci beaucoup, Clotilde.
Mais de rien, merci à vous. Je voudrais préciser une chose importante, c'est que pour l'instant, il y a une exclusivité Apple Books. Les trois premiers mois, parce que c'est eux qui ont financé le projet. Donc, les trois premiers mois, on va retrouver ce livre sonore-là sur Apple Books et ensuite, on va le retrouver sur toutes les plateformes, y compris la nôtre, livreaudio.vuesetvoix.com. C'était important que je le dise. Okay.
Et les gens cheap comme moi, au SQLA, c'est quoi, c'est au printemps?
J'espère pas. Mais on est encore en pourparlers. C'est pas facile là-bas. Ouais. C'est pas évident, mais eux-mêmes, ils sont en difficulté. Et c'est lancé le 21 novembre à 18h au Salon du Livre à la Grand Place.
Et ton rendez-vous à toi, les jeudis après-midi?
Les jeudis, c'est ça. Ou sinon, c'est ça, balado, podcast ou n'importe quoi sur le site internet.
Donc sur l'heure du midi.
Voilà. Okay. Merci de m'avoir invité.
Plaisir.
Vous savez, les libraires sont de drôles de personnes. Et quand ils sont pas en train de changer des vies avec leurs suggestions de lecture, ils se posent de drôles de questions. Peut-on lire les mains pleines de sang?
Est-ce que ça fait moins mal parce que c'est dans un
livre? Sans téléphone?
Faut-il nécessairement être un as de la bullshit?
La réalité virtuelle est-elle en train de nous avaler?
La vie secrète des libraires, c'est une nouvelle série de balados sous forme d'enquêtes littéraires produites par la Fabrique culturelle de Télé-Québec en collaboration avec les libraires. On va s'amuser à poser 6 questions surprenantes à 6 œuvres de notre littérature. Ici James Heidman, je serai votre guide tout au long de l'aventure et on débute le 14 novembre. Première enquête, La dévoration des fées de Catherine Lalonde. Elle vient pas de remporter le prix Alain Grandbois de poésie, elle?
Je crois que la meilleure raison de lire La dévoration des fées, c'est parce qu'il y a très peu, voire pas de choses qui ressemblent à ça dans le paysage littéraire québécois.
C'est un texte qui est d'une richesse, puis qui permet des discussions, puis qui permet de découvrir tout ce que la littérature peut faire.
Alors, on est de retour à l'émission J'entends des voix cette fois-ci. Elle était là déjà, mais c'est davantage avec elle qu'on va échanger. Donc, avec Mme Jeanne Dompierre, qui est rédactrice en chef à La Fabrique culturelle, qui produit des balados, dont La vie secrète des libraires.
Oui, donc La vie secrète des libraires, je dirais que c'est le premier projet lourd qu'on a fait en balado, pas dans le sens que le contenu est insupportable de lourdeur, mais dans le sens où c'est un projet d'une certaine envergure.
Oui, la production est élaborée.
Oui, exactement. Puis c'était vraiment un choix conscient. On voulait vraiment investir là-dedans. On voulait pas faire du balado pour faire de la version moins coûteuse que de la vidéo, disons. Fait qu'on a fait un projet vraiment pensé pour le balado, c'est-à-dire un projet qui mise sur l'intimité, qui est assez niché dans son approche aussi, puis qui a un côté très, vous me pardonnerez l'anglicisme, là, mais packagé. Donc, c'est ça un peu la vie secrète des libraires. Voulez-vous que je vous parle un peu de...
Ben, en fait, je trouve que ça... Parce qu'il y a comme deux volets à la vie...
Ouais.
Chaque... Il y a comme deux épisodes par livre, on pourrait le dire comme ça. Et ça va chercher deux sortes de balados, en fait. Que, ouais. Parce qu'il y existe du balado qui est du balado monté avec de type reportage un peu, et du balado table de discussion. Et vous, vous avez fait les deux au
Oui, ben, je dirais qu'on avait une contrainte en lien avec le financement. C'est un peu la raison pour laquelle on a décidé de faire les panels en plus du balado principal, qui est l'enquête littéraire. Finalement, ben, on a bien apprécié la formule. On a trouvé que ça nous que c'était un mal pour un bien, que ça nous permettait d'aller chercher autre chose, de mettre aussi en valeur les libraires, hein, parce que ce projet-là, c'est important de le mentionner. Il est né d'un partenariat de longue date entre la Fabrique et les libraires. La coop Les Libraires, le réseau Les Libraires.
Oui.
Mmh. C'est toute la même chose.
Oui, c'est parce qu'il y a l'association des libraires.
Oui, c'est ça, exactement.
C'est pas la même chose.
Mais bon.
Oui.
Donc voilà, fait que l'idée, c'était quand même de mettre en valeur le travail qui est accompli par les libraires qui sont membres de la coop, qui travaillent en librairie indépendante, etc. Et avec, même si évidemment, il y a toujours au moins un libraire qui est dans l'enquête littéraire, la table ronde permettait d'aller chercher davantage là, de ce côté-là.
Oui, puis l'enquête, bon, moi, j'avoue que je me suis surtout attardé à La Muraille.
Ah, Les Murailles,
de Erika Soucy. Et on parle à une sociologue. On parle parce que l'action se situe sur la côte nord, pas loin, ben, en fait, sur le chantier mm-hmm. Hydroélectrique de La Romaine. Mm-hmm. Ben, on a parlé à des gens qui sont du coin pour essayer de valider si oui ou non c'était représentatif. Donc, c'est pas nécessairement les trois mêmes larrons qui sont là chaque fois et il y a vraiment un effort. Et oh, j'aimerais tellement que vous me disiez oui, Luc, est-ce que le livre est lu au complet et quelque part disponible parce que les extraits qu'Erika Soucy lit sont magnifiques.
Ben nous, malheureusement, on n'a pas le genre de structure budgétaire qui nous permet d'acquérir les droits pour faire le livre audio. À la Fabrique culturelle, on est reconnu pour faire beaucoup avec peu, mais notre beaucoup s'arrête quelque part.
Donc, elle a lu que des extraits. Là. Vous n'avez pas le livre et vous n'avez pas pris des extraits d'un livre, d'une version audio du livre.
Non, c'est ça. Oh, nous, on a libéré des extraits. Ceci dit, je ne sais pas si c'est dans les plans. Peut-être que ça... Je pense qu'elle est à la Peuplade, si je ne me trompe pas, Erika Soucy. Donc, peut-être que ça vaudrait la peine de contacter l'éditeur pour savoir si c'est dans les plans. C'est un livre qui a quand même eu beaucoup de succès et de retentissement. C'est un excellent livre.
Elle en a fait une pièce, d'ailleurs.
Ah oui, je ne savais pas qu'il y avait une pièce autour des murailles. Je savais qu'elle était dramaturge, mais j'ai... Ouais. Ah, ben c'est vrai, c'était à Québec l'année dernière.
Ouais. Ouais.
Mais donc, bref, peut-être que c'est dans les plans, considérant l'engouement qu'il y a ces temps-ci pour la forme, le livre audio. Là.
Comment avez-vous choisi vos... Bon, comme la saison 1, c'est 6 livres.
Oui.
Comment les choisit-on?
Ben, y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. On essaie d'avoir quand même une certaine diversité. Parité homme-femme, c'est très important. Certaines représentations aussi des communautés culturelles, de diverses générations, etc. Donc, il y a ça. On essaie aussi d'avoir différents genres littéraire. Par exemple, dans la première saison, on avait quelques romans, mais aussi La dévoration des fées, qui est plutôt de la poésie, même si c'est une forme de poésie particulière. Puis bon, Blaise and Dallas, c'est du roman, mais c'est du roman sociologique, donc on est ailleurs. Fait qu'il y a cette notion de diversité des genres littéraires-là. C'est les mêmes critères qui ont un peu guidé notre choix pour la deuxième saison, dont je ne révélerai pas les titres, malheureusement. Ça sera pas possible. Mais c'est ça. Et nous, en fait, les livres sont choisis. Évidemment, c'est des livres qui nous ont plu, dont on reconnaît une certaine qualité, mais c'est des livres qui sont pas des livres nécessairement tout récents, qui sont sortis dans les dernières années et dont on considère qu'ils ont peut-être pas reçu 100% de l'attention qu'ils auraient dû.
Ouais.
Bon, après ça, c'est sûr que La dévoration des fées et le livre de Caroline George ont été finalistes au GG l'année dernière. Je sais pas, Caroline George avait peut-être même reçu le prix, je m'en rappelle plus, là. Puis c'est des livres qui ont fini par recevoir beaucoup d'attention, mais au moment où on a sorti le projet, on n'en avait pas encore entendu parler. Fait qu'il y a tout ça, là.
C'est quoi la place du balado? Parce que puisqu'on vous a et vous êtes rédactrice en chef, non pas, vous n'êtes pas réalisatrice de ce balado-là.
Non.
Mais que, à moins que Luc, tu avais encore des choses à dire en lien avec celui-là. J'aimerais aussi parler du balado à la Fabrique culturelle. Est-ce que c'est un volet qui prend de l'ampleur?
C'est un volet qu'on a exploré dans les dernières années. Nous, on travaille avec des équipes qui, à l'origine, faisaient de la télé. Il y a 5 ans, quand la Fabrique a été lancée, on a pris ces équipes-là de télé et on leur a dit, désormais, vous faites du contenu web, ce qui est déjà une adaptation. Et moi, quand je suis arrivée il y a 3 ans, j'ai dit, maintenant, on va ajouter de la balado aussi à la soupe. Et c'est ça, donc on en fait, mais avec quand même parcimonie. Parce que pour moi, c'est vraiment important que quand on fait des projets balado, souvent, ça se classe dans des projets spéciaux. Je ne veux pas qu'on fasse juste des captations audio ou des contenus plus simples à l'audio. Selon moi, ça ne répond pas nécessairement à ce qui est en demande.
Vous aviez Kim Twee qui faisait des entrevues à une certaine époque, il me semble.
Oui, mais c'était en vidéo.
Oui, Kim, tu sais, c'était avant. Moi, je faisais juste l'entendre, alors
finalement, ça
ne
changeait pas grand-chose.
C'est ça.
Mais on pourrait peut-être reprendre certains de ces contenus-là puis les mettre en balado si vous me dites que ça fonctionne bien. Mais donc, non, Kim, tu étais l'ambassadrice de la Fabrique. Maintenant, c'est Sophie Cadier-Webster. D'ailleurs, on a un projet avec Sophie qui est également en production pour la 2e saison qui s'appelle Proximi, où Sophie, qui est une superbe comédienne et une femme merveilleuse aussi, va à la rencontre d'autres femmes extraordinaire du milieu culturel et artistique pour donc discuter de création et de vie en général. Ça donne vraiment des moments touchants, des beaux entretiens, puis il y a une portion aussi de documentaire où on plonge un peu dans l'univers de ces invités-là. Fait qu'il y a celui-là. On a un autre merveilleux projet qui s'en vient à l'hiver, plutôt du côté musical, qui va s'appeler L'heure de radio McGarrigle, qui est un projet réalisé par Julie Morissette. C'est avec, partiellement la famille McGarrigle-Wainwright, là. Mais il y a plein d'autres invités aussi. Donc, on a approché cette dynastie musicale-là.
Et une maison de production, donc.
Avait des albums qui s'appelaient... Ah
oui,
ouais,
c'est ça, exactement.
Inspiré de ça.
C'est un clin d'œil. Il n'y a pas de hasard.
Et donc, vous vous associez avec des producteurs, là, si vous parlez de Julien Morissette.
Julien réalise. Julien travaille pour nous dans ce projet-là.
Okay,
c'est
vous.
La Fabrique qui produit.
Okay.
Julien est un collaborateur régulier qu'on apprécie beaucoup. Là. C'est avec lui aussi qu'on travaille sur Proximi.
Okay.
À l'exception de Quartier Général, c'est surtout des courtes saisons fermées, si on
oui,
votre formule.
Oui, c'est parce que tu sais, c'est des raisons de budget aussi.
Oui.
Quartier Général, d'ailleurs, qui a pris fin, là, on n'a pas poursuivi cette année. Avec ça, on a décidé de se concentrer justement sur des projets qui répondaient plus à ce qu'on cherche à accomplir avec le balado. Donc, des projets peut-être un petit peu plus produits, entre guillemets.
Moi, je comprends ce que vous voulez dire.
Ouais.
Ben, merci beaucoup. On invite les gens à suivre ce que fait la Fabrique culturelle pour voir qu'est-ce qui va sortir. Sur la page des balados, c'est plus par épisode, hein, si je me trompe pas.
Il y a moyen de les trouver par série, par épisode. Je dirais que l'ergonomie de notre site web est un petit peu criblée d'imperfections, mais on est attaché quand même.
Mais vous êtes sur toutes les plateformes en général?
On est sur toutes les plateformes, sur iTunes et partout ailleurs.
Alors, Jeanne Dompierre, rédactrice en chef à la Fabrique culturelle, merci beaucoup d'être passée au Canal M et j'entends des voix.
Merci pour l'invitation.
Ça se peut qu'on parle télé la semaine prochaine si les gens disent oui.